foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay. Vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence. Nous sommes le mercredi 17 mars 2021. Alors bienvenue encore une fois à cette table ronde qui accueille deux fois par mois des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser les éléments de l'actualité récente. Nos invités vont nous aider à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés par les médias, que nous lisons ou fréquentons quotidiennement. Durant la prochaine heure, on demandera à ces spécialistes de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui, parfois, nous questionnent et même nous déroutent. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours. Laissez-moi vous les présenter. Au téléphone, en télétravail, Sabrina Di Matteo, la directrice adjointe à la formation continue à la Conférence religieuse canadienne. Bonjour, Sabrina.
Bonjour, François, et bonjour à tous les auditrices et auditeurs.
Aussi en studio, Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences des religions de l'UQAM. Bonjour, Louis.
Bonjour, François et tout le monde.
Et aussi, au téléphone, grâce à la technologie, Simon Maltais, éditeur adjoint Livres religieux aux éditions Novalis et Bayard Canada. Alors, bonjour Simon.
Bonjour François.
Alors, aujourd'hui, on va discuter de ces nageuses qui ont intenté une action collective contre Natation artistique Canada. On aura aussi deux sujets à l'international. D'abord, le voyage du pape François en Irak et cette guerre qui dure depuis 10 ans en Syrie. Il sera aussi question de la déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur la moralité de 2 des 4 vaccins acceptés par Santé Canada. Mais d'abord, côté COVID-19, de nouveaux assouplissements sont annoncés par le premier ministre. Alors hier, à 17h, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que dès ce soir, le couvre-feu dans les régions qui se trouvent au palier d'alerte maximale en zone rouge sera repoussé. Il débutera désormais à 21h30 et non plus à 20h. Il a aussi annoncé que 3 régions passeront en zone jaune le 26 mars. Ce sont la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord et le Nord du Québec. Salutations aux auditeurs et auditrices de Radio-VM là, de ces régions-là. Plus de couvre-feu pour ces 3 régions et la capacité d'accueil des lieux de culte est rehaussée à 250 personnes au maximum, sauf pour les funérailles et les mariages qui pourront accueillir un maximum de 50 personnes. Alors là, 250 personnes, c'est pour la zone jaune. En zone rouge, le premier ministre a aussi annoncé qu'à compter du 26 mars, les salles de spectacle pourront ouvrir selon les mêmes conditions que celles en vigueur pour les cinémas situés en zone rouge, ce qui veut dire 250 personnes. Mais pour les lieux de culte, on demeure à 25 personnes, une mesure déjà annoncée la semaine dernière, a répété François Legault hier soir. Rappelons aussi que depuis le 8 mars, les lieux de culte en zone orange peuvent accueillir un maximum de 100 personnes, mais les funérailles et les mariages doivent encore respecter la limite de 25 personnes. Facile de s'y retrouver avec tous ces chiffres-là, mais on comprend que la première mesure à laquelle tout le monde est resté accroché hier, là, c'était de repousser le couvre-feu, de passer de 20h à 21h30. Simon Maltais, le gouvernement n'avait pas vraiment le choix.
C'est sûr qu'avec le changement d'heure, déjà qu'on augmentait la clarté le soir d'une heure, ne pas repousser le couvre-feu, ça, c'est sûr que ça allait plomber le moral des gens. Au-delà du moral, bien déjà la mise en place du couvre-feu, d'un point de vue de santé publique, il semble y avoir eu des effets positifs. C'est ce qu'on en comprend. Par contre, dès le départ, le couvre-feu avait des règles un peu particulières, avec des exemptions, par exemple pour les personnes qui doivent aller promener leur chien, qui pouvaient mal se comprendre. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est pourquoi le couvre-feu a été instauré et pourquoi c'est une mesure si efficace, c'est parce que les principaux lieux de propagation de la COVID jusqu'à présent, ça a été surtout dans les résidences privées, lors de soirées ou de rassemblements privés. Et au-delà, on peut pas. C'est beaucoup plus difficile à contrôler, finalement, ces rassemblements-là que celui de contrôler, par exemple, sur la voie publique ou dans les commerces ou des choses comme ça. Donc, le couvre-feu, c'était une méthode pour faire en sorte que les gens se rassemblent moins le soir de façon non voulue. Donc, en soi, ça semble avoir fait ses preuves, visiblement, mais reste que 8 heures, c'est très tôt. On peut facilement avoir des urgences au courant de la soirée, il a besoin d'aller à la pharmacie pour différentes choses. Et pourquoi finalement quelqu'un pourrait aller promener son chien, mais que d'autres personnes ne peuvent pas aller promener leur enfant qui a des coliques?
Mm-hmm. Oui, c'est un jeune parent là, qui parle.
Oui.
Oui, effectivement, mais Louis Rousseau, quand on y pense, le gouvernement n'avait peut-être pas le choix, mais en même temps, il prend des risques, là, parce que plus vous augmentez l'heure, plus vous repoussez l'heure, plus il y a des risques aussi qu'il y ait des rassemblements là, qui soient faits. Et ceci, c'est toujours interdit là, en zone rouge.
Oui, mais bon, on imagine que les réunions d'adultes se font peu avant 8 heures. Je dirais, je suis pas sensible de ce point de vue-là à supposer l'efficacité de la mesure précédente à 7 heures. En montant à 8 heures, je crois que ça enlève de la pression auprès de ceux qui grognent sans véritablement changer tellement... Enfin, mais là, écoutez, je suis loin d'être un expert, mais c'est un commentaire à vue de nez que je fais là.
Alors, Sabrina Di Matteo, pour vous, c'est veut dire enfin la nightlife à Laval, c'est permise.
Ah oui, surtout avec mon chien qui déteste marcher. Alors, même si je la sors après 9h ou 9h30, on va faire quelques pas et ça va être suffisant.
Oui, oui, oui.
Non, ben c'est sûr que c'est une mesure qui fait du bien. Autant on pouvait être découragé par l'annonce de la mesure du couvre-feu au début janvier, alors qu'on n'avait pas encore connu ça ici au Québec, là, contrairement à, par exemple, à la France ou à d'autres pays qui l'ont eu même durant les premiers confinements. C'est sûr que, bon, on pouvait dire, oui, ben il fait moins 20 degrés, j'avais pas trop l'intention de sortir de toute manière. Alors, disons que ça fait du bien et c'est bienvenu à ce moment-ci. Par ailleurs, est-ce qu'il a vraiment été démontré que c'est le couvre-feu qui a permis de réduire autant la propagation du virus? Il était quand même en mesure, alors que d'autres, en vigueur, pardon, alors qu'il y avait toutes sortes d'assouplissements qui se sont passés pour la semaine de relâche. Moi, je trouve là, qu'on reste quand même dans une gouvernance là, qui se fait par certains paradoxes et contradictions. Mais bon, je veux bien croire au principe de précaution à travers tout ça. Alors, profitons-en pour se remettre en forme, aller marcher, parce qu'il est vrai qu'une fois la journée de télétravail finie, le souper fait, la vaisselle faite, soudainement, il était 20 heures, puis on n'avait plus grand-chose de possible. Alors, je crois que ça va faire du bien, tout comme je me réjouis pour les croyantes et les croyants qui vont pouvoir retrouver en plus grand nombre leur lieu de culte pour les rassemblements, et surtout alors qu'approche la Pâque juive et la Pâque chrétienne.
Ouais, alors justement, parlons de cette question-là. Le 26 mars, donc dans moins de 10 jours, là, les théâtres, les salles de théâtre, les salles de spectacle vont pouvoir accueillir, y compris en zone rouge, 250 personnes. Évidemment, en fonction là, de leur capacité. Si un petit théâtre ne permettra pas 250 personnes à l'intérieur de la salle, il va avoir en proportion, là, ça sera moins. Mais il reste que... Bon nombre ont été déçus d'apprendre, et j'aimerais ça qu'on en parle ici, que les lieux de culte, par exemple, en zone rouge, eux n'auraient que 25 personnes qui seraient permises. Alors, on passe de 10, qui était quand même un nombre limité, on va à 25. Et le premier ministre a lancé cette phrase-là hier. Ben, vous comprenez, dans un milieu religieux, il y a davantage de contacts entre les personnes, alors qu'on n'a pas ces contacts-là dans une salle de spectacle et de théâtre. Déjà, Louis Rousseau, vous hochez la tête. C'est pas un bon argument.
Ben, c'est-à-dire que c'est peut-être un bon argument, mais je connais pas beaucoup, enfin, je fréquente pas toutes les paroisses catholiques, je vais parler essentiellement pour les communautés que je connais davantage, les gens sont, dans les bonnes communautés, les gens sont plus chaleureux. Mais précisément dans les bonnes communautés où les gens sont plus chaleureux, c'est souvent des communautés où les gens sont sensibles à l'argument de la santé. Et moi, je suis en général un peu chaleureux, mettons, ou même un peu plus. Enfin, bref, ça dépend avec qui. Mais si je sais qu'en m'approchant et en l'embrassant, en le serrant dans les bras, je risque de lui flanquer une maladie ou qu'il m'en envoie une, j'ai un peu de tête. Je me dis, bon, déjà, ça fait un an que je suis frustré et ce qui me manque, c'est des corps humains à serrer. pourquoi je me garde cette discipline? C'est un jeûne corporel que nous faisons tous. Là. Disons-nous ça, là, on jeûne de l'expression affective depuis un an. On tient la route. Mais la pression monte et souvent ceux qui ont des fragilités, c'est le moral qui s'en va. Alors, moi, ce que je reproche, mais profondément, ce que je vois, ce que j'observe, c'est que ce gouvernement-là, et je lui reproche pas d'être un gouvernement où il y a peut-être pas une majorité de gens qui sont pratiquants, c'est la liberté de chacun, mais a une espèce de mépris de l'efficacité du religieux. Il y a une efficacité des rites religieux. Hein? La religion, moi, la définition la meilleure qu'au fil des années, en étudiant plusieurs, j'ai trouvé, c'est que c'est des ensembles systémiques de discours et de pratiques. Hein? On fait des affaires, puis on parle, ou on écoute. Et ça sert à quoi? À affronter victorieusement les conditions limites de l'existence humaine. C'est ça que je trouve le plus fondamental. Or, les rites qu'on ne peut pas faire à plusieurs présentement sont précisément des rites qui actualisent l'efficacité, appelons-la psychologique là, pour que tout le monde qui écoute, l'efficacité de tenir la route. Le jeûne est difficile, mais on va se remonter les batteries pour tenir la route. Or, ceci, l'efficacité du religieux, faisons une comparaison, c'est au moins aussi efficace qu'une bonne pièce de théâtre réussie. Mm-hmm. OK? Bon. Et pourquoi, on a souffert autant que les salles de spectacle, et pourquoi, alors que les salles de spectacle peuvent aménager des distances et des lieux de circulation, etc., acceptables, et qu'on ne pense pas que les communautés de foi et de prière peuvent avoir le même sens des responsabilités. Pour moi, il y a soit une ignorance crasse, et il y a peu de gens qui sont des pratiquants dans la communauté d'origine catholique, ça s'explique. Mais éduquez-vous, acteurs gouvernementaux, on travaille. Le premier ministre, la religion pour lui, c'est ce qu'il a vécu avant l'âge de 15 ans dans sa paroisse à la campagne, où après la messe, le monde se retrouvait sur le parvis de l'église, se pompait la main, se saluait, faisait des jokes et étirait le culte d'une demi-heure. Bon, c'est plus ça. OK? Alors, qu'on se réveille au gouvernement et que les représentants des communautés de foi soit plus convaincant, explique que ceux qui pratiquent et qui vont prier en commun, ça les aide.
Alors, un véritable cri du cœur, en tout cas, de Louis Rousseau.
Je me le suis permis.
Sabrina, on est dans une drôle de situation. On passe, par exemple, à l'Oratoire Saint-Joseph, qui est un immense temple religieux qui va pouvoir accueillir 25 personnes là, à partir du 26 mars.
C'est d'un ridicule absolu. Hein.
Mais qui pourrait, toutefois, organiser des concerts de musique sacrée à l'intérieur même de la basilique. Là. Ouais. C'est à ça là, qu'on risque d'arriver, Sabrina.
Ah ben écoutez, les blagues se font d'elles-mêmes, là. Je veux dire, un curé qui veut se louer une salle de cinéma pour faire sa messe-là, pourquoi pas? ou un théâtre, tant qu'à ça.
Oui.
ou tant qu'à être. Tant qu'à avoir des messes virtuelles, allons les regarder au cinéma. Non, je fais des blagues, mais effectivement, c'est complètement contradictoire. D'autant qu'il y a d'autres mesures qui seraient possibles et qui sont en place ailleurs, en Ontario, depuis... au premier déconfinement, donc vers l'été 2020, en France, si je ne m'abuse, il y a eu une règle de proportion pour la quantité de personnes admises dans dans les églises, par exemple. Mmh. Donc, 30 % dans la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal, ce n'est pas 30 % de mon église de quartier, évidemment, mais c'est équilibré. Et ça a été demandé au gouvernement de François Legault et par la table interreligieuse de concertation, par une pétition qui circule en ligne qui s'appelle « Sauvons Pâques », qui a à peu près 6 000 signataires, en fait seulement, d'ailleurs, à mon étonnement. Mais il reste qu'il n'y a jamais eu d'acquiescement à cette mesure proportionnelle. Ça, je ne me l'explique pas du tout. D'autant que on invoque toujours du côté de la santé publique ou du gouvernement que ça peut être un lieu de transmission, mais en fait, tous les lieux de culte qui travaillent dans ces mesures-là avec précaution, ils disent bien qu'on ne chante pas, qu'on garde le masque, qu'on reste à sa place et que on se donne pas la main pour l'échange de paix là, durant la messe. Et de toute façon, même durant les temps de grippe saisonnière habituelle, les gens le faisaient plus. Mmh. Louis parle de lieux chaleureux. Personnellement, les dernières messes auxquelles j'allais, souvent, là, les gens se faisaient des coucous là, à distance, de toute manière, bien avant la pandémie. Alors, les pratiques raisonnables existent, les gens sont au courant et veulent faire attention. Ils veulent juste retrouver un rituel qui leur est cher et qui peut simplement pas se traduire de manière digitale à tout bout de champ, parce que dans cette efficacité du rite là, que j'aime beaucoup, là, dont Louis parlait, il y a toute la question du corps et des sens qui sont impliqués. Et ça, on ne peut pas l'avoir en deux dimensions à l'écran quand on ne fait que parler. Puis, je veux dire, c'est sûr qu'il y a eu des choses intéressantes qui se sont faites en ligne, mais ce n'est pas la même dynamique que de pouvoir se retrouver, se rencontrer. Alors, j'espère vraiment là, qu'on va pouvoir avoir, en tout cas, une mesure de déconfinement un petit peu plus large que ça bientôt.
Alors, Simon Maltais, vous êtes un éditeur là, chez Novalis. Novalis qui publie, entre autres, un petit bouquin qu'on connaît bien qui s'appelle « Le prions en église » et qui est distribué là, dans les églises. Ça veut donc dire que vous allez hausser votre tirage pour passer de 10 exemplaires pour certaines églises à 25. C'est pas extraordinaire là, comme modèle financier.
Ben, disons qu'effectivement, dans les produits Novalis, reste que c'est prions en église qui a le plus souffert. Le prions en église dominicale, on s'entend évidemment, parce que le mensuel, l'abonnement que les gens peuvent prendre
pour recevoir
à la maison, voilà, continue de fonctionner. Ben, même en fait, va mieux va mieux que jamais, peut-être sans surprise. Mais non, pour nous, c'est pas une situation facile. En même temps, on fait face à une situation de décroissance progressive. Ça a été la pandémie, de ce point de vue-là, a été plus un accélérateur qu'un pas inversé une tendance, mais plutôt accéléré une tendance.
Oui, c'est
qui
ça.
Est en place.
Alors, j'imagine qu'on aura aussi l'occasion d'en rediscuter. Je vous rappelle qu'hier soir, là, le premier ministre a repoussé l'heure du couvre-feu. Ce sera maintenant 21h30 en zone rouge et aussi en zone orange, là, donc de 21h30 le soir jusqu'à 5h du matin. Alors, on revient dans quelques instants pour un autre sujet. Alors, coup de tonnerre dans le monde sportif. Le mardi 9 mars, 5 nageuses ont intenté une action collective contre Natation Artistique Canada et elles réclament jusqu'à 250 000 $ chacune en dommages punitifs. Le recours collectif, s'il est autorisé, va démontrer ou entend démontrer que Natation Artistique Canada a permis que les athlètes dont elle avait la responsabilité subissent des abus psychologiques, de la négligence et du harcèlement, y compris du harcèlement sexuel et racial, de la part des entraîneurs et du personnel travaillant au sein de Natation Artistique Canada. C'était de l'humiliation devant d'autres nageuses, des entraîneurs, parfois des membres de l'équipe de soutien, des psychologues, le directeur technique, la psychothérapeute. C'était de façon hebdomadaire, voire même quotidienne, a déclaré une de ces nageuses. La médaillée d'or Sylvie Fréchette a appuyé ces nageuses dans leur sortie publique. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir réagi plus tôt », a-t-elle déclaré. « J'étais là, j'ai vu des choses, mais c'est tellement inculqué en nous que c'est comme ça que ça marche. J'ai décidé de le faire aujourd'hui parce qu'assez, c'est assez. » Surprise, Sabrina Di Matteo, par cette sortie là, de ces nageuses-là.
Oui, surprise, malheureusement, évidemment pour la souffrance qu'elles ont endurée à travers ça, le silence, le sentiment d'isolement, c'est souvent ça qui arrive entre chez les victimes, c'est qu'elles peuvent le garder pour elles ou elles se croient seules avec ça, et finalement elles en arrivent à découvrir qu'elles n'étaient pas seules et que leur consoeur, dans ce cas là de la nage artistique, vivait la même chose. Surprise et non en même temps, parce qu'on sait bien que la culture des abus, on l'a vu avec tous ces mouvements de dénonciation dont on a abondamment discuté déjà à Fouet Turbulence. Surtout dans le cas des agressions sexuelles, du mouvement Moi aussi, et ainsi de suite. Et on en a parlé dans le contexte de l'Église, mais en sachant bien que dans le milieu de la culture, dans le milieu sportif, les agressions, les abus existaient aussi. Mais là, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur ce qui est dénoncé par les cinq nageuses, c'est que ces abus s'apparentent à quelque chose qu'on est en train de voir émerger aussi dans les milieux religieux ou encore les milieux, je dirais, du bien-être spirituel très générique. Là, on peut penser à des milieux comme le yoga, puis des milieux qui vont travailler sur le corps puis le bien-être mental en faisant référence à certaines spiritualités. Mais on a vu, on sait qu'il y a des cas il y a un cas en particulier au Québec, d'un recours collectif contre une communauté nouvelle, un recours collectif qui est en attente d'autorisation contre donc la famille Marie-Jeunesse, pour la nommer, puisque c'est connu publiquement. Et on fait état de choses semblables, harcèlement psychologique, humiliation. Moi, ce qui me touche dans les deux dossiers, c'est que c'est un milieu de performance. Dans un cas, c'est la performance sportive qui est visée, puis l'atteinte, évidemment, là, d'un triomphe sportif dans les compétitions. Et dans le milieu religieux, il y a quelque chose de semblable. Hein. On a eu des témoignages de personnes qui disent avoir vécu de l'abus spirituel dans le cadre communautaire, qui disait, vivre un harcèlement psychologique ou s'être fait dénigrer par le fondateur, s'être fait humilier, avoir l'impression d'être laissé de côté, ou devoir s'investir au point dans des projets, là, au point de tomber de fatigue, de faire des burn-out. Et tout ça, je trouve, Rimouski à une sorte de performance religieuse, parce qu'on veut être les meilleurs témoins ou faire vivre les meilleures expériences d'évangélisation, et c'est assez insidieux. Ce qui me frappe, encore une fois, et je fais toujours une comparaison entre les deux cas, c'est que dans le cas des nageuses artistiques, tout de suite, on les croit, en fait, hein, on se lamente pour elles et on ne remet pas ça en question, même si c'est de l'ordre psychologique et que c'est moins saisissable, c'est moins... On pourrait croire que c'est pas aussi grave, si on veut, là, qu'une agression sexuelle. Tandis que dans le cas des abus spirituels dont je parle, il y a beaucoup, on l'a vu dans des commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens dénoncent les victimes qui portent plainte et essayent d'invalider leur témoignage du fait que d'autres personnes n'ont pas vécu des abus. Et c'est assez intéressant de voir que sur des choses qui sont moins mesurables, sur sur lesquels on n'a pas de preuves aussi facilement peut-être qu'une agression physique, on est prompt à invalider la vérité que les personnes rapportent.
Alors, la médaillée d'or, Sylvie Fréchette disait qu'après sa sortie publique, pour encourager les 5 courageuses là, qui ont pris la parole, elle a été aussi inondée de messages souvent pas très positifs là, vis-à-vis ça. Au fond, ce qui est en arrière de ça, c'est pas nécessairement l'idée de la performance. Dans tous les sports, il y a une certaine performance. On s'attend à ce que des joueurs de hockey, par exemple, performent sur la glace. Il y a pas un joueur qui serait médiocre ne peut pas être accepté dans une équipe de hockey professionnelle. On comprend ça là-dessus. Mais ce qui est en arrière de tout ça, c'est toute la question des abus psychologiques auxquels on arrive à l'intérieur de ça. Allez-y, donc, quelques mots, Louis Rousseau. C'est quand même une nouveauté, là, ce qu'on voit là à l'intérieur du monde du sport.
Oui, en fait, le sport, comment dire, de haut niveau. C'est pas le club de Pee-wee, là, c'est de haut niveau, c'est de niveau olympique. Il y a à la limite, il y a presque pas de limite. souvent, les gens qui pratiquent le sport demandent que le coach soit efficace avec eux-mêmes. Ils sont prêts à accepter de grands renoncements à bien des égards. Ici, une des particularités qui s'ajoute, en quelque sorte, c'est qu'il s'agit des nageuses artistiques. C'est pas la course, c'est pas le sprint, c'est pas la distance, c'est... il faut aussi, ce sport-là est un sport qui a été... qui était un peu conçu dans le contexte d'une... les femmes, c'est la beauté, le charme, etc. Et à ce moment-là, faut que tu sois aussi efficace, que tu restes longtemps en dessous de l'eau, que tu développes ta force, etc. Bon, mais c'est le... comment dire? La mise en jeu du stéréotype d'une belle fille. Une belle fille, par définition, doit avoir les formes non pas de la Vénus paléolithique, mais bien de Twiggy, idéalement. Cette remarque donne mon âge en même temps, mais enfin, donc, de la femme filiforme, peut-être quelques formes au niveau des hanches, mais enfin, discrètement. Et ça, c'est encore plus terrorisant, je dirais, et dévalorisant, parce que la valeur ici est prise par rapport à une référence sociale. C'est plus important d'être belle que d'être performante en dessous de l'eau, dit une des plaignantes. Et ça, comment dire, ça devrait... Les normes du coaching sont en train d'évoluer sous la pression de dénonciation de ce type-là. Sylvie Fréchette disait, je ne me rendais pas compte, ça faisait partie du système, mais Sylvie Fréchette a peut-être jamais été obèse. Tant mieux pour elle. Mais on contrôle pas ça tant que ça, totalement, par volonté. Donc, il y a là une dénonciation. C'est la montée, évidemment, dans nos sociétés, de la dénonciation de ce qui est une déviance par rapport à la norme dans tous les domaines.
Alors, Simon Maltais, vous avez de jeunes enfants, peut-être trop jeunes là, pour aller dans les sports, mais il reste que c'est inquiétant pour des parents de voir là, ce à quoi nos jeunes athlètes, par exemple, qui veulent performer, pourraient subir lors de leurs entraînements.
Ben c'est sûr que comme dans toute histoire où est-ce que des limites ont été dépassées, où est-ce que ce qui est décent a été dépassé, il y a quelque chose d'horrifiant. Personnellement, j'ai pas été très surpris de voir ça dans le milieu du sport parce que dans les journaux, malheureusement, l'Église ressort souvent pour des questions d'abus sexuels, faut pas oublier que les milieux du sport sont aussi un endroit où il y a eu des abus sexuels, il y a eu aussi toute la question du dopage. Donc, c'est déjà des milieux qui sont justement où la performance est demandée de façon excessive. Et où est-ce que souvent c'est des jeunes comme vous le dites bien, donc qui se retrouvent, qui sont en position d'infériorité devant un coach, un entraîneur qui est en position d'autorité et finalement une posture qui peut prendre, être dévastatrice. Donc, si on parle depuis de nombreuses années qu'il faut changer la culture dans l'Église par rapport à la sexualité ou par rapport aux abus sexuels, le milieu du sport a lui aussi, bien sûr, un long chemin de croix à parcourir.
Ben alors, merci pour ces réflexions-là. Alors, je vous rappelle que le mardi 9 mars, 5 nageuses ont intenté une action collective contre Natation Artistique Canada pour abus psychologiques. Elles réclament 250 000 $ en dommages punitifs chacune. Alors, nous sommes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Alors, je vous rappelle les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Sabrina Di Matteo, de la Conférence religieuse canadienne. Louis Rousseau, professeur émérite, département de sciences des religions de l'UQAM. Et Simon Maltais, des éditions Novalis, Bayard, Canada. Alors, on se transporte maintenant à l'international. Deux petites nouvelles, en fait, des grosses nouvelles quand même, malheureusement. Mais on va pouvoir n'en traiter que brièvement, malheureusement. Alors, le pape François, lui, s'est rendu en Irak du vendredi 5 mars au lundi 8 mars. Il est venu apporter son soutien à la minorité chrétienne encore présente dans ce pays meurtri par des années de guerre et plus récemment par les violences commises par le groupe djihadiste État islamique. À Najaf, par exemple, le pape François a rencontré la plus haute autorité religieuse du monde chiite, l'ayatollah Ali Sistani. Il a fait plusieurs escales. Évidemment, il est arrivé à Bagdad, ensuite il est allé à Erbil, au nord du pays, ainsi qu'à Mossoul et à Karakoche, deux villes martyrs du pays, qui ont été sous le joug de l'État islamique là, pendant 3 années. Alors, c'était un voyage sans doute nécessaire. C'était aussi un des premiers voyages qu'un dirigeant d'un pays a fait dans le monde là, ces derniers temps. C'était aussi le premier voyage du pape François depuis un an à l'extérieur là, du pays. C'est un voyage courageux, un voyage nécessaire, Louis Rousseau?
Nécessaire, je crois, du point de vue du pape François lui-même. Il y a là une... comment dire... est-ce qu'il s'agit... Le terme de stratégie ne me déplaît. Mais disons, ce pape a conçu sa fonction et sa responsabilité et l'autorité internationale dont il dispose. Hein. On peut critiquer le fait que le Vatican soit un État. Bon, mais mettons, supposons qu'on parle du fait que c'est un État. Cet État-là s'est défini avec une vocation internationale. Tout le monde sait, il y a des diplomates de plus que 100 pays qui sont spécifiquement habitent Rome pour être en lien avec le Vatican. Donc, c'est une construction historique, c'est un vieil héritage, mais que la papauté peut utiliser de toutes sortes de façons. François entend, comme d'autres papes avant lui, mais d'une manière qui lui est caractéristique et propre et personnelle, mettre le prestige et l'autorité de cette fonction-là auprès non simplement des catholiques ou des chrétiens en général, mais un peu mondialement, au service d'un message qui, ici, était clairement un message de fraternité et de ce que ce pape-là aime appeler une amitié sociale. Et là, je nous renvoie tous à l'encyclique qui avait précédé de peu ce voyage-là et qui, au fond, si on veut comprendre le programme riche de ce voyage-là, lisez Fratelli Tutti. Oui, nous sommes tous frères. Et là, c'est le message que François envoie en essayant qu'il soit de concert avec des leaders ou des gens d'autorité au sein des différentes familles musulmanes. Il a bien compris, il y a deux grandes traditions religieuses mondiales qui, numériquement, sont les plus importantes et répandues le plus universellement sur la Terre. Le christianisme, et en particulier le catholicisme, et l'islam dans ses différentes variétés. François a ciblé la reconnexion du message venant du centre du catholicisme avec les grands personnages d'autorité. Ils n'ont pas une structure centralisée en islam, mais il est allé à la rencontre en Égypte, à Abu Dhabi, et finalement, il a rencontré le grand interprète du chiisme, l'imam Ali Sistani. Oui. Et ça, c'est un peu la clé. Fait dans un pays où, comme vous le disiez tout à l'heure, François, aucun président occidental a osé se montrer. Moi, je vous avoue que à l'approche de ce voyage-là, je me disais, François a accepté éventuellement même de mourir.
C'était dangereux.
En fait. C'était plus que dangereux. Le niveau de danger était très grand et je suis sûr qu'il a eu une majorité de conseils lui disant, s'il vous plaît, bougez pas. Mm-hmm. Alors donc, son témoignage-là, qui était aussi un témoignage d'humilité, d'une certaine façon, et tourné vers toutes les traditions religieuses, évidemment des enfants d'Abraham, mais même pas. Il y avait aussi là des leaders d'anciennes traditions pré-islamiques qui étaient là. Alors, pour moi, évidemment, en consolation pour la communauté catholique.
Alors, j'imagine que François, ben, on le trouve là où on ne l'attend pas. On ne l'attend pas. Alors, allez-y, quelques mots là-dessus, Simon.
Ben en fait, je pense que François n'a pas fini de nous surprendre. C'est un pape qui en fait a vraiment sa propre approche de la papauté, qui se distingue quand même radicalement de ses prédécesseurs. Non pas par sa qualité de communicateur, parce que bon, on le sait très bien, Jean-Paul II particulièrement était un excellent communicateur, mais c'est vraiment dans sa vision, comme le disait si bien Louis, c'est vraiment dans sa vision qui est très complète, qui est très développée, sa vision du monde, qui fait en sorte que François, on pourrait dire de façon un peu bête, travaille très fort à réparer les pots cassés. Mmh. Et à faire en sorte que les religions, que le religieux soit une force, soit vraiment une force de paix dans le monde.
Alors, ça a été tout un symbole, entre autres à Mossoul, vous l'avez probablement vu, Sabrina, on voyait le pape, mais à l'intérieur là, d'un tas de ruines d'une église, visiblement, ou en tout cas de grands monuments. C'était une image très forte, là.
Absolument, et je pense qu'on doit se rappeler à quel point la baisse et l'exode des chrétiens a été énorme depuis 2003. Alors, en 2003, il y avait à peu près 1,5 million de chrétiens en Irak, et ils sont maintenant un peu moins de 300 000. Mm-hmm. Pour nous comme chrétiens, mais aussi pour les trois religions monothéistes, l'Irak est un pays symbolique d'importance, parce que tout ça est relié à Abraham, qu'on associe là, comme père des trois religions, là, donc juives, islamiques et chrétiennes, comme il venait d'Ur, en Chaldée. Et donc, on peut pas regarder ça en se disant, mais nos frères et sœurs chrétiens sont persécutés. Écoutez, c'est pas comme on faisait des blagues tantôt là, sur le fait de pas pouvoir être plus qu'un certain nombre dans nos églises, mais ça n'a rien à voir quand on pense à ouais. des bombardements d'églises ou au fait de devoir fuir son lieu d'appartenance. Alors, pour moi, ce voyage, oui, il est important. Je crois que il a évidemment une forte teneur symbolique, mais il dit aussi une volonté de ce qu'est l'héritage, le legs du pape François pour non seulement pour l'Église dans sa posture face à d'autres religions, donc mais comme disait Louis, l'amitié sociale, la fraternité. Moi, je dirais que c'était encore une fois un voyage qui appelle à la réconciliation, au dialogue, la solidarité internationale, la solidarité planétaire aussi, au sens avec notre planète, parce que comme le dit bien l'encyclique Laudato Si, tout est interdépendant, tout est lié. Alors moi, je retiens ça en particulier, et évidemment cette attention aux rencontres interreligieuses, au dialogue, et à une volonté de recherche commune de la paix et de la justice sociale. Et ça, c'est inspirant. Puis je voyais hier ou avant-hier une photo passée sur Facebook, le diocèse diocèse de Gatineau avait fait une rencontre entre musulmans et chrétiens pour le diocèse. Donc, il faut qu'on... Je pense que... inspirons-nous de cet élan de réconciliation et de dialogue. On en a besoin. On en a besoin quand on regarde notre société ici, tout autant que quand on regarde ce qui se passe à l'étranger.
Alors, et le voyage du pape en Irak a permis aussi de nous rappeler que ce pays-là existe. Hein? Alors, de plus en plus, on a de moins en moins de nouvelles des autres pays. On est davantage concentré sur la situation dans notre propre pays à cause de la COVID, sans doute. Justement, au même moment, on se rappelle, et peut-être que pour certains, c'est une découverte, mais que ça fait 10 ans là, qu'il y a la guerre en Syrie. C'était en mars 2011. Hein? Des manifestations pro-démocratie avaient éclaté en Syrie. Les manifestants se plaignaient du taux de chômage élevé, de la corruption, du manque de liberté sous la présidence de Bachar el-Assad. Le gouvernement, lui, a eu recours à la force pour réprimer le mouvement de contestation. Et puis ensuite, vous avez eu des puissances étrangères qui ont commencé à prendre parti. Vous avez eu la Russie et l'Iran qui ont appuyé le gouvernement de Bachar el-Assad, alors que la Turquie, les puissances occidentales et plusieurs États arabes du Golfe ont soutenu l'opposition au cours de la dernière décennie. 10 ans de guerre qui ont fait, selon certains, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, quelque 387 000 personnes qui sont décédées, dont plus de 116 000 de civils, 12 000 enfants ont été tués ou blessés, selon l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Très brièvement, il nous reste très peu de temps, c'est important de ce rappel-là de ce pays-là dans l'actualité, mais c'est aussi une guerre là, qui est de plus en plus oubliée, Sabrina Di Matteo.
Oui, désolée, j'avais éteint mon micro, et voilà les affres de la technologie. Oui, absolument. En fait, moi, c'est pas juste la Syrie, mais on a l'occasion, nous, à travers l'émission, de faire le point sur des situations à l'international. C'était Haïti il y a 2 semaines. Oui. Mais il me semble qu'on fait une rotation de situations terribles, de conflits qui durent ou de problématiques humanitaires qui sont vertigineuses. Et pour moi, la Syrie représente comme une... ça nous dit qu'il y a un problème au niveau de la solidarité internationale qu'on voit par des problématiques sur le fait que l'aide internationale a de la difficulté à se rendre en Syrie. Il y a question de transferts bancaires qui rencontrent des problèmes. Voilà, pour moi, c'est vraiment une situation qui... ça se peut pas que des situations comme ça durent aussi longtemps, 10 ans, et que la communauté internationale n'ait rien pu faire. C'est la même chose pour Haïti, la même chose pour l'Irak, le Yémen, le Myanmar. Moi, c'est ça qui ressort. Je pense que la Syrie est en ce moment, pour moi, un symbole d'une sorte de faillite internationale.
Oui, allez-y, Simon Maltais. Vous aussi, vous voyez une faillite particulièrement de l'ONU qui aurait dû intervenir en 10 ans?
Particulièrement de l'ONU, je ne sais pas. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ça montre que ça démontre de façon claire la perte de puissance des États-Unis, qui ont joué les gendarmes du monde jusqu'à relativement récemment. Mais maintenant, les États-Unis ne sont plus en mesure de faire ce travail de police, finalement. On en vient à voir que les puissances régionales, comme justement l'Iran, la Turquie, ont leur mot à dire et sont capables de perturber de façon importante l'ordre du monde. On pense aussi à l'Arabie saoudite qui est en guerre contre le Yémen depuis... Oui. Je ne pense pas que ça fasse déjà 10 ans, mais c'est presque aussi longtemps. On voit que des puissances régionales peuvent vraiment perturber les choses. L'ONU, une faillite de l'ONU, oui, dans la mesure où est-ce qu'on ne lui donne pas plus de moyens. Les casques bleus de l'ONU ont leurs limites. Est-ce qu'on s'en serait rendu? Je pose la question et ça vient de me venir à l'instant, oui. J'ai aucune réflexion à l'air de ça. Mais est-ce qu'on en serait venu à une situation où est-ce qu'il faudrait délaisser de plus en plus les armées nationales pour garnir davantage une force internationale commune pour faire face à ce genre d'enjeu? Là, j'ouvre une boîte de Pandore. Je me tais.
Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour lancer ces interrogations-là. Alors, dans quelques instants, un nouveau sujet est là, canadien. Alors, le mardi 9 mars, la Conférence des évêques catholiques du Canada a discrètement déposé dans son site Web une note sur la moralité des 4 vaccins approuvés par Santé Canada. Lorsqu'ils en ont la possibilité, les catholiques du Canada devraient éviter d'avoir recours aux vaccins produits par AstraZeneca et Johnson & Johnson, a indiqué la Conférence épiscopale. Pourquoi? La Conférence épiscopale adopte cette posture doctrinale parce que les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson utilisent des lignées cellulaires dérivées de l'avortement dans leur développement, leur production et leurs essais cliniques. C'est le mardi 10 mars, alors lorsque des journalistes ont découvert cette note dans le site Web de la Conférence épiscopale des évêques. Alors, le 11 mars, alors qu'on soulignait le premier anniversaire de la pandémie et que l'on rendait hommage à toutes ces victimes, bien des évêques du Québec ont déploré cette prise de position de leurs confrères du Canada et dit qu'ils vont prendre un vaccin, le premier vaccin qu'on leur offrira, peu importe sa provenance. Oh, quelle histoire, Louis Rousseau, ça a été déprimant en tout cas.
C'est une communication que le moins qu'on puisse dire, c'est une catastrophe parfaite. Le jour où, dans un contexte où on fait le deuil, on fait un rituel collectif de deuil quant aux effets nocifs de cette pandémie, contre lequel l'instrument principal, c'est la vaccination. Toutes les mesures qui nous font un carême de la fréquentation d'autrui de trop proche ne sont pas des mesures qui guérissent. Mmh. Ça empêche le pire ou ça essaye d'empêcher le pire. Les seules mesures qui véritablement promeuvent la guérison, c'est les vaccins. Et voilà que, soudainement, sans qu'on l'ait vu venir du tout, sauf peut-être des gens un peu spécialisés pour à écouter ce qui peut sortir du Vatican, mais sans qu'on l'ait venu, et donc sans aucune analyse, je suis sûr, de la part de ceux qui ont sorti cette nouvelle-là, les évêques catholiques, donc l'Église, en quelque sorte, est contre les vaccins. Ce n'est pas ce qui était dit, mais... Ça suppose qu'on va se faire vacciner en allant à la pharmacie, il y a 4 choix, et là, les évêques disent, écoutez, vous pouvez prendre un peu lesquels, mais il y en a un qui est moins moral que les autres. La notion de moins moral, je me dis, on fait-tu juste un péché véniel en prenant AstraZeneca versus un péché mortel? Enfin, bref, on est dans une espèce de casuistique qui déborde entièrement l'entendement et les connaissances du citoyen catholique lambda. Mais, et là, on se dit... Quel est le processus? Comment c'est arrivé? Moi, vous m'en avez parlé ce matin, François, parce que vous êtes un journaliste qui fait de la bonne recherche. Je ne le savais pas. Et ce qui est passé dans les médias, c'est qu'encore une fois, les évêques catholiques ne pensent qu'à une chose, la doctrine du contre l'avortement. Et ça, c'est le critère le plus grand. Au mépris même de la santé. C'est-à-dire, l'Église est supposée défendre la vie. Mais là, on attaque les cellules qui, il y a 40 ans, ont pu servir à une invention qui, aujourd'hui, va nous sauver la vie. Donc, erreur de A à Z.
Sabrina Di Matteo, ce qu'on a vu le 11 mars, là, c'est toute une ligue là, d'évêques francophones là, qui disent ben, écoutez, ça n'a pas de sens, c'est inopportun comme déclaration. Écoutez, dès que je peux être vacciné, parce que certains ont l'âge d'être vaccinés, alors dès que je peux être vacciné, vous me vaccinez avec le vaccin, n'importe quel. Ce n'est pas important la question de la moralité. Ce qui est surtout important, c'est la charité, c'est de sauver la vie des gens.
Oui, exactement. Il faut dire, en fait, rapidement sur cette note elle-même, entre le 9 mars et une clarification de la CECC le 11 mars, en fait, la note s'annule elle-même. Le problème de cette note, qui en soi ne contredisait pas, par exemple, ce que la Congrégation pour la doctrine de la foi avait dit en 2020, le problème de cette note, c'est que la CECC la sorte en sachant bien qu'au Canada, on ne peut pas choisir son vaccin. Quand on se présente pour se faire vacciner, on prend ce qu'on nous donne. Hein, tu choisis pas une hostie différente quand tu te présentes pour communier. Et la CECC, le sachant, a quand même invité à choisir. Et donc, imaginez la confusion induite par ça. Et donc, le 11 mars, ils disent, ben, puisque vous n'avez pas le choix, il n'y a aucun problème, prenez... Mm-hmm. chance de créer un si grand tollé. Et puis, il faut le faire là, le lendemain du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, encore une fois, là, de nous montrer une obsession avec l'avortement, alors que, comme le dit bien Louis, là, et comme des bioéthiciens l'ont démontré, là, on parle de lignées cellulaires 40 ans plus tard. Là, il n'y a aucun tissu d'un fœtus avorté hier qui se retrouve dans ton vaccin demain. Alors, il faut vraiment faire la part des choses. Pour moi, par contre, ce qui est plus important et qui trahit vraiment une problématique interne à la conférence épiscopale, c'est que l'enjeu là, c'est pas juste une communication bâclée, c'est une question de structure, de représentativité et d'ecclésiologie, c'est-à-dire comment fonctionne l'Église, parce que ce que les grands médias ont pu rapporter dans des chroniques, par exemple, le lendemain du 9 mars, c'est dire les évêques du Canada. Or, on voit bien que pour ceux qui ont pu réagir le lendemain pour se distancer de ce qu'a dit la conférence épiscopale, ça veut dire que on peut croire comprendre qu'ils n'étaient pas au courant que cette note sortirait. Qui a écrit cette note? En fait, on ne le sait pas. Elle n'est pas signée. Donc, est-ce qu'elle vient de quelle instance elle vient dans la conférence épiscopale? Du Conseil permanent?
Ben alors, j'ai posé la question, c'est un peu y répondre. Alors, on a évidemment demandé aux gens, aux évêques, là, qui étaient membres du conseil permanent, et personne n'a voulu répondre directement à cette question-là. Mais tous ont dit qu'ils étaient bien malheureux qu'on ait publié là, cette note-là. Alors, c'était déjà la réponse, là, si vous voulez, à cette question-là. C'était un problème de communication, visiblement, là, Simon Maltais.
Oui, un problème de communication. D'autant plus que c'est un enjeu qui peut être difficile à expliquer pour le commun des mortels. Puis je dis ça avec tout le respect envers mes concitoyens. Reste que la question des lignées cellulaires, justement avant qu'on en discute à cause de cette affaire-là, moi-même, je n'avais pas réalisé qu'est-ce que c'était exactement cet enjeu. C'était quoi le et c'est là que j'ai compris que c'est une cellule, c'est parti, oui, d'une cellule issue de l'avortement, mais qu'on est rendu beaucoup plus loin et que dans le vaccin en tant que tel, il n'y a pas évidemment, comme le dit bien Sabrina, il n'y a pas de tissu de bébé avorté ou de fœtus avorté ou quoi que ce soit. Là. Mm-hmm. Donc, juste, c'est un élément qui est quand même complexe de la science. Et c'est un élément qui est finalement, en fouillant, on découvre qui est central pour le développement de n'importe quel vaccin. En fait, pas seulement pour la COVID, cette lignée cellulaire-là a permis finalement de développer une panoplie d'éléments dans notre pharmacopée, pas seulement dans notre pharmacopée, mais même dans d'éléments agroalimentaires. Mm-hmm. Donc, on parle d'une avancée scientifique qui a eu des impacts majeurs pour la vie d'une quantité innombrable de gens.
Oui, c'est ça, qui sauvent des vies ou qui donnent la vie, en fait.
Exactement. Donc, encore une fois, on se retrouve un peu dans le dilemme classique scientifique qui est de faire l'équilibre entre les risques et les bénéfices. Risques-bénéfices. Et puis ça, on le fait, je dis scientifique, mais on le fait dans la vie de tous les jours, là, tout le monde. Et on voit bien que les bénéfices de cette technologie, surtout qu'on s'entend que le lien avec l'avortement est très tenu, il est très, très, très mince. Les bénéfices ont aucune commune mesure, là, avec les risques.
Je risque la dernière question dans le dernier tour de table, là, mais est-ce que quand on voit en tout cas ce qui s'est passé entre le 9 et le 11 mars, cette ligue-là des évêques là, francophones ou québécois qui se liguent contre leurs confrères anglophones ou canadiens, est-ce que c'est pas pensable? Est-ce qu'on se dirige pas là, vers un schisme, là, mais peut-être même une nouvelle conférence épiscopale, une conférence épiscopale pour le Québec? Est-ce qu'on est si distinct que ça. Allez-y donc, Sabrina Di Matteo, là-dessus. Oh, on a perdu Sabrina, je pense. Allez-y, Louis.
Vous soulignez ce que Sabrina, tantôt, a évoqué. Il y a un problème de conception de ce que c'est que la synodalité. C'est-à-dire que l'idée de synode, c'est une assemblée faite de chrétiens. En tradition catholique, à peu près exclusivement des évêques. Mmh. Et suite à Vatican II, on a créé les embryons de conférences épiscopales. Nous avons déjà eu une assemblée des évêques de Québec. Je ne sais pas si ça existe encore, là, Sabrina le saurait mieux que moi, mais ce que ça souligne, l'événement, comme vous le dites, c'est que entre les évêques du Québec, tous ou peut-être une majorité, parce qu'il y en a qui ont été assez silencieux, et on ne présumera pas de leur pensée, il y a des différences, non simplement sur la communication publique, mais sur le contenu de ce qu'on va dire. Et aussi, sur les orientations, j'allais dire, sociopolitiques, l'amitié sociale, l'aide aux plus pauvres, qui s'exprimait à travers cette quête collective pendant le carême pour aider des associations qui rendent des services dans les pays, et qui a été attaquée cette fois-ci. Hein. C'est un peu pareil. Les évêques du Québec sont plus derrière cette aide internationale que dans le reste du Canada. Et c'est la même chose ici. À mon avis, il y aurait la place pour une assemblée épiscopale du Québec plus forte, semi-autonome, parce qu'à vouloir jouer le jeu de l'ensemble, le Québec n'est plus lourd dans le monde catholique. Mm-hmm. La perte de la pratique religieuse, etc. Donc, le Québec va toujours perdre au niveau d'une conférence épiscopale canadienne qui est beaucoup plus conservatrice de toute façon.
Alors, un mot, Simon Maltais?
Oui, ben moi ce que j'aurais à dire, puis ça va dans le même sens que mes collègues, c'est évidemment la question de qui fait ces communications-là, comment cet organisme-là fonctionne. Mm-hmm. C'est pas le seul cas, cette note-là, c'est toute la question de développement épais dont on a entendu parler dans les dernières années, avec les partenaires qui ont été évalués et tout ça. C'est difficile d'avoir de l'information, de savoir qui prend ces décisions-là, qui s'investit dans ces jugements-là, dans ces communications-là. Et finalement, est-ce que la Conférence des évêques du Canada parle... C'est qui parle à travers cette institution-là? Est-ce que ce sont vraiment les évêques? Parce que ce qu'on en comprend, ou en tout cas, est-ce qu'on en a lu avec l'Assemblée des évêques du Québec a dit par la suite? Visiblement, il y a plusieurs évêques qui n'étaient pas au courant et qui n'approuvaient pas cette communication-là. Donc, qui parle?
Alors, en arrière de tout ça, il y a la question du secret, hein, vous l'évoquez pour l'histoire de développement épais, on l'évoque aussi là-dessus, sur la déclaration sur les vaccins, elle n'était pas secrète, c'est seulement lorsqu'on posait des questions à la conférence épiscopale, là, on obtenait un grand silence. En fait, ce sont les évêques du Québec là, qui ont parlé, et ce sont même les évêques du Québec qui ont distribué la clarification de la conférence épiscopale canadienne, ce qui était assez étonnant. Il nous reste moins d'une minute, là, Sabrina Di Matteo. Un dernier mot sur la question du secret épiscopal.
Oui, ben Simon l'a bien dit, hein, parce que ça revient dans le cas de la saga de développement épais. Moi, je pense aussi à la communication bâclée autour du refus de faire des excuses au peuple autochtone et de du possible voyage du pape en 2018. On est dans des dynamiques semblables. Et moi, je crois que là-dedans, il devrait y avoir un texte chez Présence là, de ma part qui va sortir probablement dans la journée.
Bon, vous l'annoncez déjà.
Je l'annonce et j'ai beaucoup mis mon cœur dans ce texte-là parce que derrière tout ça, en fait, le problème, c'est que ce sont quelques-uns qui agissent au nom des autres sans que les autres soient informés. Et le résultat, c'est une église et des pasteurs divisés.
Parfait. Ben, écoutez, voilà. Faut que je vous laisse, Sabrina. C'est déjà la fin de cette émission-là. Mais merci pour ces réflexions et on va les lire là, avec intérêt. Alors, je vous rappelle que l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut de pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation Lucien Labelle et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité se tiendra dans deux semaines, soit le mercredi 31 mars 2021. On vous y donne déjà rendez-vous. La semaine prochaine, à l'émission Foi et Turbulence, la religieuse Catherine Aubin recevra Jean Porret, un pasteur protestant et un apiculteur. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Sabrina Di Matteo, Simon Maltais et Louis Rousseau. Merci à Mathieu Lavigne, le coordonnateur, et à Daniel Fortin à la régie. À l'animation, c'est François Gloutenay de l'agence de presse Présence qui vous remercie d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.